La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Peuple de Dieu, il m'agrée d'être avec vous aujourd'hui, une fois de plus, pour partager la parole de vie. L'enseignement que vous allez recevoir n'est en rien ordinaire, parce qu'il est structuré sous forme de cours magistral, comme il est de bon ton d'en donner dans les universités, dans les grandes universités de tout type. Il est une chose aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu, ne s'étant pas encore attaché à la prière, ne s'étant pas encore attaché à la parole de Dieu, comme cela se doit, a tendance à utiliser l'intelligence matérielle, la chair, pour analyser les choses de l'esprit. C'est à cause de ce penchant, de cette tendance suicidaire, dangereuse, que nous avons pensé qu'il faudrait donner un enseignement structuré, profond, technique, qui va permettre que ceux qui se donneront la peine de l'exploiter aient désormais une avance sur tous ceux qui, eux, ne l'ont pas. C'est aussi un enseignement de délivrance profonde. C'est aussi un enseignement de guérison spirituelle profonde. C'est aussi un enseignement qui va permettre les restaurations. C'est aussi un enseignement qui va permettre les élévations. Tout ce que vous devez faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Et l'Esprit Saint, les anges, le Seigneur Jésus-Christ feront le reste. Ce cours magistral a pour thème le Verbe s'est fait chair. Il habite parmi nous. Lorsque l'on lit l'esprit de Jean 1, le verset 1 à 3 et ensuite le verset 14, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Et effectivement, dans Jean 1, 14, il est écrit: la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Nous contextualisons en disant: le Verbe s'est fait chair, il habite parmi nous. C'est le thème général. Dans la première partie de ce que nous avons à vous dire, vous devez savoir qu'il existe des enseignements très structurés sur les derniers jours de l'histoire, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui sont des enseignants de la parole de Dieu. Je vais même dire qu'ils sont des professionnels du service à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés hommes de Dieu, mais très peu sont des professionnels du service à Dieu. J'insiste à ce que vous sachiez qu'il y a des enseignements très structurés sur les derniers jours de l'histoire et tous fondés sur la parole de Dieu. Et en fait, ces enseignements renferment des séquences extrêmement précises et référencées dans la Bible. Mais ils renferment aussi des codes afin que seul Dieu en garde le secret. Si ces codes étaient accessibles pour tout le monde, le camp ennemi pourrait anticiper sur les plans de Dieu, ce qui en soi ne serait pas avantageux pour celui à qui appartient la terre, tout ce qu'elle renferme et ceux qui l'habitent. Je viens, n'est-ce pas, de paraphraser le psaume 24 au verset 1. Les chapitres de ces enseignements qui sont structurés et qui sont méconnus du grand public et du peuple de Dieu sont les suivants. Vous avez les derniers jours de préparation. Vous avez l'enlèvement. Vous avez la tribulation. Vous avez la grande tribulation. Vous avez l'antichrist. Vous avez l'apparition glorieuse de Christ qui viendra juger les hommes et faire la guerre. Vous avez le millénium, vous avez le jugement final et vous avez les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'attire votre attention sur le fait que chacun de ces chapitres est un enseignement complexe et complet. Vous aurez la grâce, parce que ça prendra beaucoup de temps, de recevoir des enseignements sur chacun des chapitres qui a été annoncé dans les mois à venir. Nous avons décidé dans l'urgence de traiter juste d'une première partie. Donc, il est pour le moins étonnant que des personnes qui n'ont jamais lu la Bible en entier. Parce que bon, il y a des gens là qui aiment parler de ce qu'on dit de la Bible. Eux-mêmes n'ont jamais lu la Bible. C'est une curiosité d'ailleurs. Je voudrais revenir là-dessus. Lorsqu'on vous dit que la parole de Dieu, la Bible, a deux grandes parties, le Premier Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'un point de vue définitionnel, qu'est-ce que c'est qu'un testament? Un testament est un document qui répertorie, n'est-ce pas, l'ensemble des richesses qui vous sont dues. Mais si vous lisez la Bible par morceaux, accidentellement, sans jamais lire ni le Premier Testament, ni l'Ancien Testament, ne voyez-vous pas toute l'incohérence? Comment vous est-il possible de connaître l'étendue de votre richesse si vous ne lisez pas le testament qui vous a été légué? Vous ne saurez jamais si votre père vous a légué 10 entreprises, 2000 hectares quelque part. Vous ne saurez jamais si vous a légué des potagers quelque part. Vous ne saurez jamais si vous a légué des voitures quelque part, de l'argent caché quelque part, de l'or ou des diamants cachés quelque part. Pourquoi ne lisez-vous pas la Bible, ne serait-ce que pour avoir accès à la connaissance matérielle des textes? Comment pouvez-vous prétendre avoir accès à votre héritage si vous n'en avez même pas la connaissance, parce qu'ayant choisi délibérément de ne pas lire votre testament? C'est une question fondamentale qu'il faut poser aux chrétiens, aux croyants et aux adorateurs. C'est quand même bizarre. Vous voulez avoir accès à votre héritage, mais vous ne lisez pas le testament. Je passe. J'étais en train de dire que il est pour le moins étonnant que des personnes qui non seulement n'ont jamais lu la Bible en entier, au moins une fois, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de ces moments de l'histoire, les derniers moments de l'histoire pour lesquels je vous ai donné des chapitres entiers, complexes, qui seront développés ultérieurement, qu'elles se permettent de contester ou de protester, alors même que ni le savoir de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance matérielle de texte, ils ne l'ont pas. Ils n'ont même pas encore acquis l'expérience de la parole. Mais ils contestent. Ils ne connaissent pas la connaissance matérielle des textes. Même ça, ils n'ont pas. Le minimum. Ça, c'est le minimum. La connaissance spirituelle des textes, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance de la connaissance spirituelle des textes. Non, même pas la base, le basique, la connaissance de la connaissance matérielle des textes. Et ils n'ont même pas la connaissance révélée. Mais on leur dit quelque chose, ils discutent. C'est-à-dire, connaître le texte biblique brut, ils n'ont pas. Connaître l'interprétation que l'Esprit Saint donne à un texte, ils n'ont pas. Recevoir ce que Dieu lui-même donne pour compléter l'enseignement qui est dans la Bible, ils n'ont pas. Ils passent seulement un temps à relayer l'ignorance qui court à travers la planète depuis des millénaires. Vraiment, il faudrait arrêter de faire ce genre de choses. Cessez d'être des experts de ce que vous ne connaissez pas. Il n'y a que les misérables pour développer une telle infirmité. Il n'y a que des gens vraiment stupides, profondément stupides, pour développer une telle attitude. Pourquoi voulez-vous être expert de ce que vous ne connaissez pas? Quand on ne sait pas quelque chose, on laisse les experts et les spécialistes en parler. C'est comme je vois souvent les gens qui ont fait les cours de biologie, qui sentent qu'ils peuvent discuter des opérations chirurgicales avec un professeur chevronné de neurologie, un chirurgien neurologue. Tu vas discuter, tu as appris quoi? Tu connais même quoi? Tu aimes commencer l'école. Il faut que le désordre cesse sur cette planète. Que les gens pensent que tout le monde peut parler de la Bible avec la même autorité, avec la même légitimité. C'est faux. C'est archi faux. Il y a des experts dans ce domaine. Il y a des spécialistes dans ce domaine. Et les spécialistes ne sont pas dans les écoles de théologie. Il faut arrêter ça. La théologie n'existe pas au ciel. La théologie n'est pas de Dieu. Donc, chacun doit comprendre, quand on regarde, prenez la Bible, je vous mets au défi. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, montrez-moi un seul grand serviteur de Dieu qui a été dans une école de théologie. Un seul. C'est Dieu lui-même qui forme ses appelés. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Donc, nous allons développer la première partie dont le thème est les derniers jours de l'histoire. Le thème global, la première partie. La première partie, je vous ai donné le thème tout à l'heure. Quand on va regarder, c'est les derniers jours de préparation. Mais en fait, nous sommes obligés de contextualiser afin que le peuple en tire un maximum de bénéfices. C'est pourquoi vous avez le thème révélé. C'est un thème révélé. C'est un thème que Dieu, lui, il a décidé. Le Verbe s'est fait chair. Il habite parmi nous. Bien. La deuxième partie de notre approche est ce qu'on pourrait appeler un décryptage des séquences des derniers jours de l'histoire selon la parole de Dieu. Et bien entendu, nous allons faire seulement un décryptage du premier chapitre qui vous a été annoncé. Pas plus. Ce décryptage va permettre que les uns et les autres soient à l'aise. Il est normal que vous soyez à l'aise. Il est normal que nous nous préoccupions de votre confort. En 2017, tout le monde est témoin de ça. Il y a des centaines de personnes témoins de cette histoire, et même des milliers, puisqu'on en a parlé même dans les médias. En début 2017, plusieurs apôtres, prophètes, prophétesses, ont eu la révélation que Guy Parfait Songhay est dans la Bible. Et ils ont donné avec précision les versets bibliques qu'ils ont reçus de l'Esprit-Saint et du Créateur. Ils ont dit que Guy Parfait Songhay est dans Apocalypse 12, verset 5, Apocalypse 14, verset 14 à 16. Il est de bon ton que nous lisions cette affaire ensemble parce que certains ne comprennent pas que quand ces hommes de Dieu, qui ne sont pas du ministère Père des Nations en Christ, il faut le dire, il faut que cela se sache, ils sont d'ailleurs. Quand ces hommes de Dieu faisaient la révélation, on ne leur a rien demandé. On ne leur a pas demandé de nous appeler pour nous dire que vraiment, le berger du ministère Père des Nations en Christ est dans Apocalypse 12, verset 5. Ou Apocalypse 14, verset 14 à 16. C'est eux qui nous ont contactés. J'ai même souvenance qu'une délégation de trois femmes est venue. Trois femmes sont venues avec des documents précisant que le Père éternel dit que le berger de ce ministère, avec des documents qu'ils ont collectés pendant plus de 5 ans, en disant le berger de ce ministère a la responsabilité d'unifier le peuple de Dieu sur toute la planète, en commençant par unifier tous les vrais hommes de Dieu. Ces documents sont toujours disponibles jusqu'à aujourd'hui. Elles ont fait un travail de collecte des révélations. Elles ont voyagé, ont cherché le berger du ministère Père Nation en Christ pour remettre ces messages et ces documents et dire, c'est le Père éternel qui nous a demandé de vous trouver. Vous êtes celui qui doit coaliser, unifier le peuple de Dieu, en apportant même une liste de véritables hommes de Dieu qui servent de piliers. C'est une révélation que je vous fais. Je n'étais pas obligé de vous dire ça. Je pouvais garder ça dans mon ventre. Maintenant, quand on va lire Apocalypse 12, le verset 5, et Apocalypse 14, verset 14 à 16, c'est là où les décryptages commencent à apparaître et que les véritables interprétations naissent. Respirez bien parce que vous ne devez pas dire que je vais vite. Il faut bien noter. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Amen, là n'est pas assez fort. Hein. Vraiment, c'est comme si je n'entends pas. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 12, le verset 5? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5 parle d'une verge de fer et parle de paître toutes les nations. Le décryptage qu'on peut avoir à ce niveau est très simple. Premier élément, le berger de ce ministère, qui est nommé humainement Guy Parfait Songhay, a la responsabilité de gérer un ministère planétaire, pas moins que ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qui est écrit. C'est vrai et vérifiable. Il doit paître toutes les nations. Mais comment? Avec une verge de fer. C'est quoi une verge de fer? C'est un élément de puissance, un sceptre de puissance et d'autorité. C'est aussi un symbole de violence face aux méchants. C'est aussi la preuve que ce mandat est un mandat de guerre. C'est ce que signifie Apocalypse 12, verset 5. Mandat planétaire. Élément d'autorité et de puissance, et donc de domination. Mandat de guerre. Ce n'est pas nous qui leur avons dit de venir nous donner le verset biblique là. Parce que maintenant, ils commencent à combattre. Mais quand ils transmettaient, ils étaient contents. Moi, aujourd'hui, 2 ans après, moi aussi, je parle. Parce que vous ne saviez pas que c'est les étrangers qui sont venus nous dire ça. Jusqu'à dire que oui, l'Esprit Saint a dit que ça signifie ceci. Nous, si on était là, on regardait. Voilà mes fils qui sont aujourd'hui des apôtres, des prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, certains, les généraux, les colonels, etc. Nous tous, on a écouté quand les étrangers nous ont dit. On s'est aussi partagé ça dans le ministère, que, oh, c'est eux qui sont grands. Ils disent que le berger de ce ministère est dans la Bible. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'ils nous ont apporté. Nous aussi, on a partagé entre nous. L'Esprit Saint aussi, parce que nous aussi, l'Esprit Saint nous parle, ce n'était pas seulement à eux. L'Esprit Saint nous a aussi confirmé que oui, c'est moi qui les ai envoyés. Vous venez d'avoir un décryptage révélé d'Apocalypse 12, verset 5. Mais ce n'est pas fini. Apocalypse 14, verset 14 à 16 est très révélateur. Et ce qui est dedans est stupéfiant. Parce que quand Dieu ne veut pas te dévoiler une chose, tu vas regarder la chose toute ta vie, tu ne verras pas. Tu vas seulement regarder, mais tu ne verras pas. Comment se fait-il que ceux qui nous ont donné ces versets bibliques n'aient pas décrypté ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Ils n'ont pas compris le fond du message. Ils n'ont pas su ce que ça signifiait. Il y a déjà 2 ans. Imaginez. Mais c'est eux qui auraient dû nous dire la vérité depuis. Ça prouve que seul Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il ne te fait savoir que ce qu'il estime bon pour toi, pas plus. Quand on lit Apocalypse 14, le verset 14 à 16, il est écrit: Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Apocalypse 14, verset 15 dit ceci: Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est venue, est mûre. Bien-aimé, l'endroit-là m'a donné le vertige avant. Parce que quand moi, le Père éternel m'a confirmé que c'est lui qui a envoyé le message là, mon cœur a commencé à battre fort, que l'affaire est plus sérieuse que ce que je croyais. Et j'ai commencé à me rappeler de toutes nos conversations, les conversations entre le Père éternel et moi. J'ai commencé à me rappeler de tout ce qu'il me disait. Il me dit, je ne veux pas que tu sois un président de la République. Ce serait te limiter. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Tu dois être le président des présidents. Les chefs d'État doivent se mettre à genoux devant toi. C'est ça que Dieu m'a dit. Et je vous dis ça aujourd'hui. Si je n'entends pas un amen qui en vaut la peine, moi je regarde l'enseignement à l'endroit sien. Dieu m'a dit. Parce que pendant que les gens me dérangeaient de gauche à droite, non, il faut que tu sois président de la République. Non, vraiment, c'est toi qui peux venir. Dieu m'a dit, si je te mets président, c'est te limiter, mon fils. Tu dois être le président des présidents. J'avais déjà entendu ça. Mais j'ai avalé la salive. Aujourd'hui, c'est sorti. Le décryptage d'Apocalypse 14, verset 14 est vertigineux. C'est pour ça que je vous ai sorti cette confidence. Il est écrit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. La nuée blanche, c'est quoi? Aller suivre l'enseignement sur la gloire de Dieu. La nuée blanche, c'est la gloire de Dieu. Et sur la nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jesus. Hein? Qui ressemblait à un fils d'homme. Ce n'était pas un fils d'homme. Il ressemblait seulement. Qui peut être cette personne qui ressemble seulement à un fils d'homme et qui est assis dans la gloire de Dieu? C'est Dieu. C'est homme. Si vous n'applaudissez pas à l'endroit là, vraiment, moi je pense que l'enseignement va s'arrêter maintenant. J'ai dit qu'aujourd'hui, ces jours de délivrance, ces jours de restauration, ces jours de guérison, vous allez lire votre Bible et la parole de Dieu va vous pénétrer. Du plus profond de vous-même, vous allez savoir que voici la vérité. Qui est cet être vivant qui ressemble seulement à un fils d'homme et qui est assis dans la gloire de Dieu? C'est Dieu fait homme. Avec sur sa tête une couronne d'or, le langage est spirituel, le vocabulaire là est spirituel, on ne parle que de langage spirituel. De quelle couronne s'agit-il qui est en or? Cette couronne si spéciale qui est précisée, annoncée dans Apocalypse 14, verset 14. C'est la couronne du roi des rois. C'est la couronne de celui qu'on appelle le Verbe, la parole, qui était au commencement. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez traumatiser les gens avec la vérité. Ils vont vouloir discuter. Le décodage que vous allez leur sortir va faire que ils vont la fermer. Tous ceux qui parlent de la fin des temps n'ont pas ce décodage. Ne savent pas ce que signifie Apocalypse 14, verset 16. 14 à 16. On est encore aux échauffements. On n'a pas fini les décodages. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On n'a pas fini. Dans sa main, une faucille tranchante. C'est quoi la faucille tranchante? C'est la parole. La parole. Que dit la parole de Dieu concernant la parole? Il faut que je vous lise ça, les enfants. Parce que c'est quelque chose qu'on doit partager. Parce que dans ce ministère, il y a des gens qui ne comprenaient pas le code qui était caché depuis. Oh, on a dit ça pendant 2 ans. Oh, Guy a fait son guesser. Moïse avec toutes les ressources de Jésus-Christ. Moïse. Qui était Moïse? Mais allez lire. Moïse est le seul prophète que Dieu a fait Dieu pour les hommes, a fait Dieu pour Pharaon. On a reçu des enseignements là-dessus. Allez chercher vous-même les références. Chaque fois, il ne faut pas que je vous donne les références. Allez vous-même chercher. Vous avez entendu ça. Le sujet a été amené délicatement et graduellement. Le jour où on arrive au but, les gens commencent à dire que non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Comme on était tous ensemble. Hein. Quand on disait que Moïse avait toutes les ressources de Jésus-Christ, on vous a sorti le décryptage sur qui est Moïse. Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir racheter l'humanité. Là-bas, vous n'avez pas contesté. Quand on a fini le chemin, ayant tout collecté, jusqu'à ce que le but entre, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. L'arbitre dit parle au centre. Vous dites que non, le but là n'est pas correct. Vous ne pouvez pas échapper. Les faits sont têtus, les enfants. Que dit la parole de Dieu concernant la parole? Parce que je vous décrypte Apocalypse 14, versets 14 à 16, point par point, pour que votre esprit soit à l'aise. Lisez Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12 est clair et limpide. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les épées des pensées du cœur. Je relis ça pour ceux qui étaient déconcentrés. Ça doit entrer directement dans leur cœur. Je relis ça. Hébreux 12, Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut dire au voisin que, voisin, je ne peux plus rester ignorant. Quand vous dégustez la parole de Dieu comme ça, elle devient délicieuse comme du miel, délicieuse comme du lait, comme des fruits mûrs. Ce n'est pas des sujets à débat. C'est l'école. La marche avec Dieu, c'est l'école. Vous devez connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Vous devez connaître la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui habite parmi nous. Parce que c'est cette parole qui est la lumière du monde. Parce que c'est cette parole qui est le chemin. Parce que c'est cette parole qui est la vérité. Parce que c'est cette parole qui est la vie. Parce que c'est cette parole qui est le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. J'attends un amen particulier. Si le amen là n'est pas fort, l'enseignement s'arrête à cet endroit. On n'a pas fini. Ceux qui n'ont pas les livres d'enseignement ne savent pas d'ailleurs que la partie qui commence par Apocalypse 14, verset 14, a pour titre dans les livres des enseignants, pour ceux qui en ont, la moisson de la terre. Je n'ai pas fini. Nous sommes là avec vous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous n'avons pas fini de vous délier, de vous détacher, de vous désendoctriner, de vous désenvoûter, de vous démonastériser, de vous délivrer. De vous désenfermer. Il y a des gens qui sont enfermés dans l'ignorance. J'étais seulement dans Apocalypse 14, le verset 14. Entrons dans Apocalypse 14, le verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. J'attends un grand amen, sinon moi je m'arrête à l'endroit là. Lance ta faucille et moissonne. Réinterprétation. Propage la parole de Dieu et sauve des âmes. Propage la parole de Dieu. Sors-les de la captivité. Propage la parole de Dieu. Sors-les de la misère. Propage la parole de Dieu. Enseigne. Sors-les des ténèbres. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de restauration. Aujourd'hui, c'est le jour d'élévation. Parce qu'aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui vous gardent dans la captivité. Je brise tous les éléments maléfiques, tous les esprits. Je les anéantis de manière radicale et irrévocable. Tous les esprits qui bouchaient l'entendement que vous aviez de ce moment précieux pour votre vie. Je brise et j'anéantis tous les esprits qui empêchaient que vous receviez la bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle qui envahit la peine en ce moment des temps post-modernes, pour parler comme ceux qui ont fait l'école, les études doctorales et post-doctorales. Oui, cela dit que nous sommes dans une période post-moderne. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. L'heure de récolter, retrouver, sauver les âmes est venue. L'heure de ramener le peuple de Dieu à Jésus-Christ est venue. Qui est ce Jésus-Christ? Celui à qui tout a été soumis, celui à qui tout pouvoir a été donné, celui devant qui tout genou fléchira, celui devant qui toute langue confessera. Les Tintins vous disent que quand vous recevez les messages, vous faites le culte de la personnalité. Donc celui à qui tout pouvoir a été donné, quand il veut réclamer sa chose, on dit qu'il fait le culte de la personnalité. Faut dire au voisin que voisin, il faut sortir de l'ignorance. Non, il n'a pas bien entendu, il faut redire, il faut lui dire ça plus fort. Voilà les faits incontestables. On est dans la parole de Dieu, on ne va pas ailleurs. On ne va pas ailleurs. Il ne faut pas que quelqu'un dise que vous avez dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Chacun a sa Bible. Parlons de cette Bible. Ensemble. L'heure de la moisson est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et pour qu'on finisse en beauté ce décryptage magistral et lumineux, qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 14, le verset 16? Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le moment de sauver les âmes, pas après, pas demain. Le meilleur moment, c'est maintenant. La parole de Dieu va être propagée sur la planète Terre comme jamais elle ne l'a été depuis son histoire, depuis sa création. C'est le moment d'évangéliser. C'est le moment de prêcher. C'est le moment d'enseigner sur Jésus-Christ qui est revenu. C'est le moment de raconter à tout le monde avec joie que Jésus-Christ est revenu. C'est le moment de demander aux gens de prier plus que jamais. C'est le moment d'enseigner aux gens qu'il faut connaître Jésus-Christ. C'est le moment de dire aux gens partout dans vos familles, partout où vous vivez. C'est le moment de demander aux uns et aux autres de se convertir. C'est le moment de demander aux uns et aux autres de se repentir. C'est le moment. C'est maintenant, pas demain. C'est maintenant parce que le moment est arrivé. C'est le moment parce que chacun d'entre vous, et c'est ça que l'on ne veut pas vous dire, fait partie d'Apocalypse 12, verset 16. Et c'est là où ça devient très intéressant. J'étais en train de vous montrer quelque chose et on va continuer dans ce sens. Je ne vais surtout pas perdre mon élan. J'étais en train de vous expliquer que c'est le moment. Et à partir du moment où vous savez que la moisson de la terre est mûre, c'est-à-dire que chacun d'entre vous est un acteur de l'affaire, chacun d'entre vous fait partie intégrante de ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que chacun d'entre vous était déjà prévu, vous les adorateurs, vous les véritables serviteurs de Dieu, vous les apôtres qui êtes mes fils et filles spirituels, vous les prophètes qui êtes mes fils et filles spirituels, vous qui êtes les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, vous qui êtes les adorateurs, les croyants et les chrétiens, vous faites partie de l'histoire prévue par Dieu. Vous êtes choisis. Il ne faut pas que Amen là me décourage. J'attends un vrai Amen. Ce n'est pas à vous qu'on doit raconter l'histoire. C'est vous qui devez raconter l'histoire. Comme à l'époque, les rois mages racontaient l'histoire. Qu'un enfant va naître ici. On a vu. Or, les ignorants ignorent. Les ignorants ignorent que l'enfant n'a pas besoin de renaître. Où est-il écrit que l'enfant devait d'abord renaître pour recommencer à zéro? Dieu a la latitude de procéder comme il veut. Il a seulement écrit qu'il a reçu une verge de fer. Et il doit paître toutes les nations. Il a seulement écrit qu'il doit moissonner avec la fossile tranchante. Il est seulement écrit que l'heure de la moisson est arrivée, que la moisson de la terre est mûre. Ça a mûri. On doit cueillir seulement ça. Normalement, il devait arrêter l'enseignement à ce niveau parce qu'il a déjà tout dit. Mais il y a les têtes dures là. Il faut que je ramollisse les côtés durs. Donc, c'est pourquoi je vais continuer l'enseignement. Et les gens inquiétants, c'est quand tu finis la démonstration, ça, tu risques de réaliser qu'ils n'ont rien compris. Il faut que je continue l'enseignement parce que normalement, quand on a fini l'endroit-ci, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat à ce stade. Mais je vais continuer parce qu'on a dit qu'on va faire un cours magistral. Moi-même, je ne veux non plus me frustrer parce que il faut encore que vous receviez mieux. Parce que Jésus-Christ est amour. Vous allez recevoir la lumière encore plus aujourd'hui. Entrons dans la troisième partie de cet enseignement. Oui. Les références bibliques qui annoncent le retour de Jésus-Christ sur terre. Mais il y a des gens qui ne savent pas que c'est biblique. Mais ce moment est préparé depuis, est prévu depuis, a été annoncé dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'aller chercher ça dans la parole de quelqu'un d'autre que la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Non, les enfants, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut d'abord dire au voisin que, voisin, tu es béni. Dis à la voisine n'a pas bien compris, dis à la voisine que, voisine, tu es béni. Voilà. Les références bibliques qui annoncent le retour de Jésus-Christ sur terre, on les retrouve segment par segment. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas reçu, que vous ne saviez pas. Voici ces références bibliques, sous-thème après sous-thème. Avant que le Christ revienne, il était prévu quoi? Un accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux au sein de l'Église. C'est biblique. Accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux au sein de l'Église. Je ne veux pas lire à votre place, je vais vous donner les références. Je vais même lire deux fois, même pour les gens qui écrivent au ralenti. Si c'est nécessaire, je vais écrire, je vais lire trois fois pour que les gens qui écrivent au ralenti écrivent aussi. Oui, ma fille, j'ai dit que le titre, c'est que accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux au sein de l'Église. Même le titre, il faut que je relise parce que certains n'ont pas compris. On se connaît, je vous vois. Oui, mon fils, c'est ça que j'ai dit. Accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux au sein de l'Église. C'est un sous-thème qui permet de savoir quelles sont les références bibliques qui annoncent le retour de Jésus-Christ sur terre. Ce n'est pas une affaire banale qui est arrivée par accident. Je vous ai démontré la rigueur analytique et interprétative qui est liée à cette affaire. On peut aller plus loin. Quelles sont les références bibliques? Prenez des notes. Matthieu 24, le verset 4 à 5. Matthieu 24, le verset 4 à 5. Ensuite, le verset 10 à 11, toujours de Matthieu 24. Et enfin, le verset 24. Matthieu 24, le verset 4 à 5. Et encore les versets 10 à 11. Et enfin le verset 24, toujours de Matthieu 24. Je ne veux pas que l'enseignement soit trop long, c'est pourquoi je ne peux pas lire tous ces versets. Nous continuons, en espérant que même les retardataires soient à la ligne. S'ils n'arrivent pas à être à la ligne, qu'ils attrapent la corde. On va leur donner le fil conducteur. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. Le verset 1. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. De Timothée 3, le verset 13. De Timothée 3, le verset 13. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est l'école. Il y a des gens qui écrivent toujours au ralenti. Je lis trois fois pour que personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. De Timothée 4, le verset 3 à 4. De Timothée 4, le verset 3 à 4. 2 Timothée 4, le verset 3 à 4. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre 3, le verset 3 à 4. 2 Pierre 3, le verset 3 à 4. 2 Pierre 3, le verset 3 à 4. C'est une sous-partie du sous-thème accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux au sein de l'Église. D'autres sous-parties. Augmentation du taux de criminalité et de l'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Augmentation du taux de criminalité et de l'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Ce n'est pas votre avis qui compte. Ce n'est pas savoir si vous avez vérifié. Je vous dis que c'est dans la Bible. Parce que vous-même, vous pouvez vérifier. Vous-même, vous pouvez donner des exemples sur ce qui est en train de se dire. Mais je vous dis que c'est dans la Bible. Et ce sont les éléments qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Toujours dans cette sous-partie. Matthieu 24, le verset 36 à 39. 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 La dernière référence par rapport à cette sous-partie, qui est liée inéluctablement à l'arrivée de Christ, est bibliquement prévue. C'est Luc 17, le verset 26 à 30. Luc 17, le verset 26 à 30. Luc 17, le verset 26 à 30. Que dit Matthieu 24, le verset 36 à 39? Vraiment, je ne vais pas m'exclamer comme on s'exclame souvent au Cameroun. Et non, je vais ramasser toutes les onomatopées de l'ouest, du centre, du sud, de l'est. On ne va pas finir aujourd'hui. Je me donne la peine de vous lire Matthieu 24. Du verset 36 à 39. Quand on vous dit de lire la Bible, vous discutez seulement en l'air. Il faut lire. Il faut lire. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. Cette partie dans le livre de l'enseignement, la parole de Dieu, est intitulée La venue inopinée du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 36 à 39? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, vous pensez que Dieu allait consulter qui pour renvoyer le Christ sur terre? Pour dire même la chose autrement, Dieu allait consulter qui pour revenir? Dieu allait consulter pour qu'il choisisse le moment à venir. Il a d'abord fait une consultation, organisé le référendum, dit que les enfants, vous voulez que je revienne quand? 2018, c'est bon. 2030, ça vous plaît? 2021? Qui Dieu a-t-il déjà consulté pour choisir un prophète? Qui Dieu a-t-il déjà consulté pour choisir Abraham? Il avait consulté qui pour choisir Isaac. Il a consulté qui pour choisir Jacob. Il a consulté qui pour choisir Paul. Il a consulté qui pour choisir Moïse. Il a consulté qui pour choisir David. Il a consulté qui pour choisir Daniel. Qui a-t-il consulté pour choisir Nathan? Qui Dieu a-t-il consulté pour choisir Samuel? Qui vous a dit qu'il y a un débat? Qu'il pourrait exister un débat? Où? Sur cette planète, entre le pot et le potier. Ce que je vous dis est biblique. Il n'existe pas de débat entre le pot et le potier. Le potier décide de ce qu'il veut faire de l'argile et donne la forme qu'il veut au pot. On vous demande de passer vos propres examens, vous ne voulez pas passer. Vous commencez à dire que Dieu devait vous consulter pour choisir dans quel corps il va descendre. Qui d'entre vous est conseiller de Dieu? Nous continuons dans les sous-parties. Augmentation du nombre de guerres, de famines et de tremblements de terre. Même si on ne voulait pas lire la Bible, quand vous regardez le journal, les journaux télévisés, depuis le 20e siècle jusqu'à maintenant, ce n'est pas ça. Vous ne voyez pas ça. Augmentation du nombre de guerres et de famines et des tremblements de terre. Je vais vous donner des passages qui sont équivalents. Toujours dans le Nouveau Testament. Il y a les Dunguru qui disent que l'Ancien Testament n'est pas important. Comme eux, ils sont trop forts. Ils sentent que quand tu veux parler l'Ancien, ils disent non, c'est révolu. Je ne sais pas qui leur a donné une telle bêtise comme enseignement. L'Ancien Testament est révolu. N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Qui êtes-vous pour raconter que c'est révolu? Révolu à quel niveau? Je vous préviens aujourd'hui, je vous dis ça aujourd'hui et que ce soit entendu. La loi du talion n'a pas été bannie. Si vous appliquez la loi du talion, on l'applique sur vous. Et je vous dis aujourd'hui que parce que je suis Dieu, fait homme, ceux qui font du mal à mes enfants et qui refusent de se repentir, ou ceux qui sont du mal à mes enfants et qui ne sont même pas des humains. J'applique la loi du talion sur eux. Je suis venu récupérer ma planète. Pas moins que ça. Et je suis venu récupérer ce qui m'appartient, vos âmes. Vous véhiculez des mensonges, des inepties, des non-sens. Je suis venu régler mes comptes. Il y a plus de 2000 ans, il fallait que Jésus-Christ meure. Pour cette mission-ci, ce n'est pas l'agneau qui est venu. C'est le guerrier qui a la faucille tranchante et la verge de fer qui est de retour. Ce n'est pas l'agneau. Vous avez pu tuer l'agneau parce qu'il fallait que l'agneau meure. Vous ne pourrez rien faire parce que vous n'avez même pas affaire à un homme. Il ressemble seulement à un fils d'homme. C'est ce qu'Apocalypse 14 vous a dit. Ressemble seulement. Ce n'est pas un homme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. Nul ne peut arriver au Père que par moi. Il y a des gens qui m'amusent. Ils fuient Jésus-Christ et ils veulent le trouver ailleurs. Si vous saviez. On est dans le sous-segment titré Augmentation du nombre de guerres, des famines, des tremblements de terre. Il y a trois passages. Quand vous allez les lire, vous allez voir, il y a des ressemblances. Matthieu 24. Le verset 6 à 8. Matthieu 24, le verset 6 à 8. Marc 13, le verset 7 à 8. Marc 13, le verset 7 à 8. Luc 21, le verset 9. Luc 21, le verset 9. Je recommence. Il y a toujours un retardataire. Je vois ma fille là-bas qui est en train de chercher les anciens passages. Je vois mon fils là-bas. Il cherche les anciens passages. J'ai dit que c'est Matthieu 24, le verset 6 à 8. Et il y avait aussi Marc 13, 1, 3, le verset 7 à 8. Il y a aussi Luc 21, le verset 9. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de place à la distraction. Il n'y a pas de place pour la distraction. Ce n'est pas possible. Soit tu es dedans, soit tu es dedans, ou encore tu es dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de l'enseignement ici. Tu veux sortir de l'enseignement, j'attrape ton oreille, je te ramène dedans. Autre sous-segment qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ, préalable à l'arrivée de Jésus-Christ, la diminution de l'amour et de l'affection dans la famille. La diminution de l'amour et de l'affection dans la famille. Bien, tout le monde est à la ligne. Je suis en train de travailler à un esprit de distraction qui vient me déranger. Affaire classée. On continue. C'est comme ça que vous devez apprendre à prendre autorité partout. J'ai dit que diminution de l'amour et de l'affection dans la famille. Je vous donne deux passages qui sont similaires. Matthieu 10, le verset 21. Matthieu 10, le verset 21. J'ai dit Matthieu 10, le verset 21. Et Marc 13, verset 12. Les deux sont similaires. Matthieu 10, verset 21. Marc 13, verset 12. Et le dernier passage que je vous donne dans ce sous-segment, c'est Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, le verset 12. On passe dans une autre dimension, toujours dans les sous-segments qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ, selon la Bible. J'ai entendu certains qui disaient que quand on vous donne des enseignements révélés, il n'y a pas de références dedans. J'espère que ces références vont leur plaire et vont les aider longtemps. Comme ils ne sont même pas assis au minima, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Il se ramasse des malédictions avec une stupidité et une facilité incroyables. Notre nouveau sous-segment, c'est la plus grande persécution du peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que vous suivez dans les journaux, je parle de ce qui est dans. Parce que vous pouvez avoir vous-même des éléments qui prouvent cette persécution du peuple de Dieu dans plusieurs pays aujourd'hui et même dans vos vies. Même dans vos familles. Pourquoi on va même aller chercher loin? Matthieu 10, verset 22 à 23. Matthieu 10, verset 22 à 23. Matthieu 24, le verset 9 à 10. J'ai dit Matthieu 10, verset 22 à 23. Certains écrivent toujours lentement. Matthieu 10, verset 22 à 23. J'ajoute Matthieu 24, le verset 9 à 10. Matthieu 24, le verset 9 à 10. J'ajoute encore Jean 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33. J'ajoute encore Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. J'ai quelque chose à vous dire. Il faut que je lise Matthieu 10, verset 22 à 23. Je lis ça pour vous. Tout est là dans la parole. Vous discutez. Vous discutez de quoi? Matthieu 24, verset 22 à 23. Y a des choses vraiment étonnantes quand on veut regarder le comportement des êtres humains. Parce que quand on regarde ce passage, je vous dis ça déjà pendant qu'on y est. Quand on lit ce passage, on est surpris. Que mais pourquoi le peuple n'a pas lu l'endroit là? Pourquoi le peuple ne comprend pas cet endroit? Est-ce que ce n'est pas clair? Il est écrit dans Matthieu. Non, je préfère même vous lire Matthieu. C'est Matthieu 10. Je vous lis Matthieu 10, verset 22 à 23, parce qu'il est plus représentatif. Parce qu'entre-temps, je cherche ce qui est plus facile à absorber pour vous, votre mental, votre intellect. Matthieu 10. Disons plutôt Matthieu 10, verset 22 à 23. C'est ça qui va saisir un peu mieux votre intelligence. Et moi, je dis ceci pendant qu'on y est. Les gens qui viennent au culte sans leur Bible et leur gros cahier, je vais vous parler comme on dit au Cameroun, loukot. Loukot. Donc, vous venez par balade ici. Il y a des gens qui viennent en balade et ils veulent les délivrances. Ok. Il y a par là ceux qui ont des oreilles. Allons-y, parce que vraiment, c'est incroyable ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui est ignoré. Il est écrit au verset 22 de Matthieu 10. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu. Je relis l'endroit là. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Mais cela signifie que pendant que vous êtes en train de vivre les persécutions parce que vous êtes des adorateurs, Jésus-Christ atterrit à ce moment, il ne va pas attendre qu'on vous tue. Cela signifie aussi que ce n'est plus le moment où on tue les prophètes. Ce n'est plus le moment où on tue les évangélistes. Ce n'est plus le moment où on tue les adorateurs. Ce n'est plus le moment où on tue les apôtres. Ce n'est plus le moment où on tue les pasteurs. Ce n'est pas les gens là que je vois qu'ils disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont les gardes du corps physique. Ils disent qu'on les menace beaucoup. Donc ils ont besoin des armes à feu pour leur sécurité. Vous moquez même de qui? D'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, avec les gardes du corps. Quelqu'un marche, il a 10 gardes du corps. Ils ont les mitraillettes en main. Quelle misère. Pendant que vous, on sera en train de vous pourchasser, Jésus-Christ sera déjà revenu. Il sera déjà venu. Cette parole s'est accomplie. Amène la manque de densité. Maintenant, c'est vous qui allez les persécuter seulement à la vérité. Vous allez les allumer seulement à la vérité à un niveau très avancé. Eux-mêmes, ils vont dire que ça va. Nous confessons. Nous confessons. Nous nous confessons. On va se convertir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On vous suit. On suit la lumière. On ne veut plus habiter les ténèbres. Ils viendront en vous, à vous en courant de tous les côtés. Le culte a lieu où? Les enseignements se donnent quand? Ils viendront. Cette parole aussi a commencé à s'accomplir. Il y a un autre sous-segment fabuleux que je ne peux pas manquer de relever. Et que les gens vivent sans le voir, que les gens regardent sans voir, que les gens vivent sans comprendre. Quel est ce sous-segment? Le Saint-Esprit sera déversé sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit sera déversé sur le peuple de Dieu. Et les enfants, un passage qu'on trouve de l'Ancien Testament au Nouveau Testament identique. Je vous donne les références. Quand vous lisez Acte 2, le verset 17 à 18, Acte 2, le verset 17 à 18, Acte 2, le verset 17 à 18 est équivalent à Joël 2, le verset 28 à 29. Acte 2, le verset 17 à 18. Aujourd'hui là, tu veux où? Tu es délivré. Tu ne veux même pas qu'on te délivre. Tu résistes, tu vas te retrouver au sol. Mieux tu acceptes ta délivrance. À partir du moment où tu es dans le champ, où cette lumière se propage, où cette puissance se propage, où le feu de l'Esprit Saint se propage, où l'autorité de Jésus-Christ se déverse. Tu n'acceptes pas aujourd'hui, là c'est le jour de ta délivrance. On va enlever tous les animaux qui sont dans ton corps, qui ne sont pas de Jésus-Christ, ils sortent maintenant. Tous les attributs maléfiques que le camp ennemi a mis dans ton corps, ça sort maintenant. Tous les vêtements sataniques qu'on t'a donnés, ça sort maintenant. Tous les pactes qui ont été signés contre ta vie, ils sont anéantis maintenant. Les rituels, les incantations, les prophéties négatives, les ventes, les dédicaces, les décrets signés contre ta vie, les manipulations, les écritures sataniques, les coalitions et les alliances sont anéanties maintenant. Les mariages sataniques, le divorce est prononcé maintenant. Aujourd'hui, toutes les mauvaises choses qui ont été faites contre ta vie sont anéanties. Nous étions dans l'enseignement. Enseignement de délivrance, de guérison, de restauration. Nous étions en train de dire que quand on va regarder, on se rend compte Acte 2, le verset 17 à 18, Joël 2, le verset 28 à 29, c'est le même passage. Mais il y a les gens qui nous dérangent ici. Quand on leur demande de faire attention à ce qu'ils voient, ils ne veulent pas regarder ce qu'ils voient. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je lis pour vous. Il n'y a même pas besoin que vous lisiez pour moi ou pour la communauté. Je lis pour tout le monde. Je suis généreux, même dans la lecture. Ce n'est pas seulement la délivrance. Vous allez jouir de cette générosité dans tous les compartiments aujourd'hui. Acte 2. Je vous ai dit que l'équivalent, c'est dans Joël 28, Joël 2, le verset 28 à 29. Acte 2, le verset 17 à 18. Mes enfants, regardez ce qui est écrit et écoutez. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce que cela n'est pas déjà accompli? Il y a les tintins qui ne comprennent pas comment des enfants de 10 ans viennent leur dire que le Père éternel m'a dit que. Ils ne comprennent pas comment des enfants de 14 ans viennent leur dire le Père éternel m'a dit que. Ils ne comprennent pas que des enfants de 16 ans viennent leur dire le Père éternel m'a dit que. Est-ce que la parole de Dieu n'a pas annoncé ça? Non, mais il faut me répondre. Est-ce que la parole de Dieu n'a pas annoncé ça? Est-ce qu'on ne veut pas retrouver ça dans la parole de Dieu? On est où là? Pourquoi ils contestent les messages qui viennent des enfants? Pourquoi contestent-ils les messages que les enfants leur transmettent? Les enfants fabriquent les visions? Les enfants fabriquent les prophéties? Les enfants peuvent-ils avoir une telle autorité? Mais regardez l'autorité que ces enfants dégagent quand ils lisent ces messages. Vous pensez que c'est eux qui parlent? Mais qui êtes-vous pour juger les messagers? Qui êtes même vous pour juger le message de Dieu? Il ne faut pas que je reste à l'endroit là longtemps, je risque de m'énerver. Il vaut mieux que je traverse. Vous avez vous-même la Bible et les références bibliques. Dernier sous-segment qui annonce de manière incontestable, inéluctable, ce qui a commencé. Là maintenant, on n'est plus dans le passé, on est dans le présent et dans le futur. Et je vais faire des correctifs à ce niveau tel que vous allez tenir ceux qui disent qu'ils connaissent la parole à ce niveau. Le dernier sous-segment. L'évangile sera prêché au monde entier. L'évangile sera prêché au monde entier. Mais les enfants, quand on dit que l'évangile sera prêché au monde entier, est-ce qu'on ne vous a pas dit déjà ça dans Apocalypse 14, le verset 15? N'avons pas lu, nous pas lu ça ensemble. Mais je rentre dans quelque chose que certains lisent sans comprendre. Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, 14 le dit. Et il y a des gens qui sont là. Ils veulent parler de la parole de Dieu sans la voir, sans la lire, sans l'analyser, sans même être capable de décrypter le moindre segment. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est ce qui est écrit. Je vous lis ce qui est écrit. Je n'ai pas écrit la Bible. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ah! Il faut dire aux voisins que voisin, c'est Jésus-Christ qui enseigne. La voisine n'a pas compris, il faut recommencer à l'endroit là. Voilà quelque chose que les gens lisent sans comprendre. Matthieu 24, verset 14, je relis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Servir de témoignage à toutes les nations. C'est totalement dans le même esprit qu'Apocalypse 14, verset 15. Et on ajoute à l'endroit là. Concernant Matthieu 24, 14, alors viendra la fin. C'est la mission de Jésus-Christ, revenu sur terre, récupérer sa planète, la planète qui lui appartient. C'est votre mission aujourd'hui, vous tous, qui avez été dans l'obligation, qui avez fait le choix. Parce que Dieu ne force la main à personne, qui avait fait le choix d'être des adorateurs, de véritables adorateurs. Quand on lit bien ce qui est écrit dans l'esprit de Matthieu 24, le verset 14, vous qui êtes en train d'écouter ce message, quand on lit bien l'esprit de Matthieu 14, 24, 14, vous qui êtes en train d'écouter ce message, vous faites partie de l'histoire. Une deuxième fois. Une deuxième fois, je vous démontre que vous faites partie de l'histoire. Je vous l'ai démontré dans Apocalypse 14, verset 14 à 16. Je vous démontre maintenant dans Matthieu 24, verset 14, que vous faites partie de l'histoire. C'est la mission de Jésus-Christ revenu sur terre pour récupérer la planète qui lui appartient. La moisson étant grande, on a besoin d'ouvriers. Vous faites partie de ces ouvriers. Vous faites partie de l'esprit de Matthieu 24 au verset 14. Parce que sans vous, il est impossible de faire cette moisson. L'heure de la moisson est arrivée. Et c'est ça qui est formidable. J'ai quelque chose à vous dire. Quand vous lisez l'esprit de Jean 4, le verset 23 à 24, je vous ajoute ça pour votre confort. Jean 4, le verset 23 à 24, vous comprenez qu'il y aura des centaines de millions de personnes qui reviendront à Christ, voire même des milliards si le travail est bien fait. Il y aura des musulmans qui vont quitter l'islam. Il y aura des bouddhistes qui vont quitter le bouddhisme. Il y aura des gens qu'on qualifie d'athées qui vont quitter leur non-croyant. Tout ce monde pour chercher Jésus-Christ. Tout ce monde pour devenir des adorateurs. C'est ce que explique Jean 4, le verset 23 à 24. Je veux vous entendre dire, Père, parle-nous. Ce n'est pas assez fort. Je veux encore entendre. D'autres décodages sortent maintenant. Maintenant que j'ai des molécules de bonheur qui viennent des voix de mes enfants, je vous donne encore d'autres dimensions. Nota bene. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est l'école. Nota bene. Écrivez comme ça, nota bene. NB dans vos cahiers. Ils ne veulent pas comprendre que la marche avec Dieu, c'est l'école. Aujourd'hui, c'est l'école. Vous allez voir que c'est l'école. Il s'agit d'école. Nota bene. L'enlèvement n'aura pas lieu tant que la parole ne sera pas accomplie, selon ce qui est écrit dans Matthieu 24, le verset 14. Beaucoup de gens ont des visions concernant l'enlèvement. Oh, j'ai vu l'enlèvement, c'est un tremble, il pleut. Ils ne comprennent pas que quand l'Esprit Saint leur donne le message, c'est pour les pousser à la repentance, à la conversion et pour prêcher. Ça ne veut pas dire que l'enlèvement va d'abord avoir lieu. La parole de Dieu est extrêmement précise. Je dis que l'enlèvement n'aura pas lieu tant que la parole de Dieu ne sera pas accomplie, selon ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Je relis encore Matthieu 24, verset 14 pour vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À l'endroit là, il y a un point. Il y a une nouvelle phrase qui recommence. À l'endroit là, il y a point. La nouvelle phrase qui recommence et qui finit vite, c'est alors viendra la fin. Tous ceux qui chantent Jésus revient bientôt, dans le préconçu qu'il y a derrière, dans l'intellection, la perception, l'interprétation qui s'enfonce, c'est que tremblez mes frères, faites très attention, l'enlèvement va avoir lieu dans bientôt. Oh, il y a une préséance établie par la parole de Dieu. Ce n'est que quand la parole de Dieu, quand tout le peuple, tous les peuples de la planète auront reçu la bonne nouvelle, qu'alors viendra la fin. Si vous n'applaudissez pas à l'endroit là, moi je m'arrête et moi je ne veux plus enseigner si vous ne m'encouragez pas. Voilà. Je sens que. Je sens que je peux encore vous donner je sens que je peux encore vous donner l'autre que j'avais caché dans l'autre coin de mon ventre. Je sens que je peux encore vous donner. Je veux encore entendre, Père éternel, parle-nous. Voilà. L'enlèvement n'aura pas lieu tant que la parole ne sera pas accomplie, selon ce qui est écrit dans Matthieu 24, le verset 14. Mais parce que vous avez montré que vous recevez cet enseignement avec le cœur, je vais vous lire Marc 13, le verset 10. C'est toujours là-bas. Ils disent qu'ils connaissent la Bible. Ils font les études de quoi là? Ils ont les noms trop compliqués. Ce n'est pas comme ça que nous on fait. Nos noms ne sont pas toujours compliqués. Je ne comprends pas. Les choses simples comme ça qu'on peut faire entre nous, mes enfants comprennent. Nous-mêmes, on mange, on prend du thé, on sirote ensemble. Les gens me compliquent la parole de Dieu. Non, 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 mes enfants, ce n'est pas comme ça. Avant que je continue, dis encore au voisin que voisin, aujourd'hui c'est doux, c'est jour de délivrance. Voilà. Il est écrit. Il est écrit dans Marc 13. Oh, mes enfants. Il est écrit dans Marc 13, le verset 10. C'est quelque chose d'incroyable. C'est là, et les gens ne vous disent pas ça. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il faut premièrement, premièrement veut dire quoi? C'est une préséance. Il faut d'abord, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est-à-dire que quoi? À titre exceptionnel, je vais vous donner l'esprit de cette affaire. L'idée de Dieu derrière cette affaire, c'est une affaire de justice. Et en dehors de la justice, le pilier central de la démarche divine dans cette affaire, c'est l'amour. Il y a plein de gens sur terre qui cherchent Dieu. Ils ne savent pas comment le trouver. Il y a plein de gens qui n'ont jamais reçu l'évangile. Il y a des gens qui ont été condamnés depuis leur naissance. Ils sont nés dans des familles où la seule option, c'était la prostitution. La seule option, c'était le banditisme. La seule option, c'était la criminalité. Ils n'ont jamais eu la possibilité de choisir Dieu. On ne leur a même pas donné l'opportunité de choisir. Ils se sont retrouvés à vendre la drogue sans même comprendre ce qui se passait. Ils ont retrouvé à être des fumeurs, à être des drogués, des prostituées, des gens qui sont dans les films pornographiques sans jamais comprendre. Ils se sont retrouvés à faire le mal sans même jamais savoir qu'il y avait l'autre option. Pourquoi est-ce que je vais les condamner alors qu'ils n'ont même pas eu le choix de choisir? C'est une affaire de justice, c'est une affaire d'amour. Il faut que les gens aient choisi. Il y a les délinquants qui entendent la parole de Dieu et la rejettent. Ce n'est pas le même cas. Quand tu entends la parole de Dieu, tu la rejettes. Tu as ta récompense. Hein. Nous parlons de sauver même ceux qui n'ont même pas eu la grâce d'entendre la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Jésus-Christ est revenu. Ce n'est pas que Jésus-Christ reviendra bientôt. Jésus-Christ est revenu. Dis aux voisins que Jésus-Christ est revenu. Je n'ai pas dit que Jésus est revenu. Il y a le fils de l'autre qui se fait appeler Jésus. Dis au voisin que ce n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas bien compris. Dis au voisin qu'il y a une nuance entre Jésus et Jésus-Christ. Le voisin doit bien comprendre. Dis au voisin que, voisin, mon père s'appelle Jésus-Christ. C'est comme ça que ça doit être compris. C'est là où la nuance est. C'est pourquoi j'ai instruit que vous changiez tous les chants que vous avez, où vous adorez Jésus, et vous mettez dans ces chants Jésus-Christ ou Christ. Jésus, ce n'est pas moi. Je suis Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu s'est donné pour venir racheter l'humanité. Donc, là, on est là. Ça a cuit. Mais comme c'est l'école, on doit aller jusqu'à la fin du cours. Cours magistral, études doctorales et postdoctorales en spiritualité, la connaissance de la vérité, formation des formateurs, c'est de ça dont il s'agit. Cet enseignement, c'est pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les généraux. Si tu n'as pas le rang d'amiral ou de commandant en chef, tu ne peux pas recevoir ce genre d'enseignement. Si tu n'es pas colonel, tu ne reçois pas le genre là. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui nous suivent en direct. Même comme les Dunguru viennent truquer mon mur Facebook, mais nous, on a les vraies statistiques. Donc, plus de 40 000 personnes qui sont en train de suivre en direct, plus tout le peuple qui est sur le site de Douala. Vous êtes seulement en train de profiter d'une grâce. Normalement, c'est la formation des formateurs. Si tu n'es pas de l'élite de Jésus-Christ, ce genre d'enseignement-là, on ne te donne pas. On garde ça, tu payes pour avoir. Donc, vous êtes en train de recevoir ça gratuitement. Dites aux voisins que voisins, on profite aujourd'hui. On est encore dans Nota Bene. On est encore dans le Nota Bene. Je n'ai pas fini. J'ai des Nota Bene lumineux pour vous. Le premier Nota Bene, c'est que l'enlèvement n'aura pas lieu tant que la parole ne sera pas accomplie. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 14, et Marc 13, verset 10, ça c'est le premier nota bene. Tu pars à la ligne, mon ami. Il faut bien noter dans le cahier là. Pars à la ligne. Deuxième nota bene. Avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des corps. Avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des corps. Cet enseignement sera développé dans ce ministère et à l'international pendant les mois à venir. Mais je vous donne comme ça modestement, juste pour votre confort, 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 58. 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 58. C'est 15, 1, 5, n'écrivez pas autre chose. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 58. Avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des corps. Il y en a qui me cherchent souvent les problèmes, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Depuis que les messages sont envoyés, depuis des mois, il y en a qui ruminent, ils bavardent, ils ne savent pas qu'il ne faut pas me chercher les problèmes. C'est vous-même qui m'avez provoqué. Je n'allais pas donner l'enseignement là. J'allais attendre de donner ça ailleurs. Vous m'avez provoqué. Nous sommes là maintenant. Vous allez me dire si vous connaissez la parole de Dieu, si vous me connaissez plus que moi-même. Je suis la parole qui s'est faite chair et qui habite parmi vous. On vous dit, prenez, dites merci Seigneur, vous protestez. Il y en a qui disent que pourquoi lui? Vous avez passé aux examens de Guy Parfait Songhai, vous savez le prix qu'il a payé. Vous pouvez payer le prix là. Est-ce que vous pouvez importer cette responsabilité? Tous les enfants qui parlent là, qui reçoivent le message et transmettent, vous pouvez passer leurs examens? Au lieu que vous alliez aussi dire à l'Esprit Saint que Père éternel, moi aussi je veux ma part. Vous critiquez les messagers de Dieu, mais ça c'est de la folie. En tout cas, aujourd'hui là, je cherche à y trouver. Je trouve, je supporte. Vous pensez que j'ai grandi au Cameroun. Je me revendique en première nationalité le Cameroun. Même si en vérité, ce peuple étant un peuple béni et dont l'identité réelle est connue par certaines personnes, va être révélé maintenant à tout le monde. Parce qu'en fait, le Cameroun est la terre promise. Amène la manque de densité. J'étais... Ça, c'est l'amen le plus long que j'ai entendu depuis ma naissance. J'étais dans le deuxième Nota Bene. Avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des corps. Vous allez recevoir un enseignement profond sur les derniers jours de l'histoire. Je vous ai déjà donné des chapitres. Troisième Nota Bene. Tout le peuple d'Israël qui sera sauvé, c'est la descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Tout le peuple d'Israël qui sera sauvé, c'est la descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ. Cela signifie que le langage qu'il y a dans Romains 11, le verset 25 à 32, cela signifie que le langage qu'il y a dans Romains 11, le verset 25 à 32, est un langage essentiellement spirituel et non matériel. Cela signifie que le langage qui est dans Romains 11, le verset 25 à 32, est un langage essentiellement spirituel et non matériel. Il y a des gens qui pensent que c'est le peuple d'Israël des relations internationales ou du droit international. Faux. C'est la descendance d'Abraham par alliance à Jésus-Christ qui sera sauvée. La quatrième partie de notre enseignement d'aujourd'hui, je vous ai dit que c'est cours magistral. On peut l'appeler même comment? Parce que quand je vous regarde là, je cherche quels sont les mots qui sont représentatifs. Les paradoxes de ceux qui refusent l'arrivée déjà accomplie du Christ, guerrier et sauveur. Je lis ça comme ça, c'est ça qui me chute. Je pense que c'est comme ça que je dois titrer ça. Rien que pour vous. Les paradoxes de ceux qui refusent l'arrivée déjà accomplie du Christ, guerrier et sauveur. Les paradoxes de ceux qui refusent l'arrivée déjà accomplie du Christ, guerrier et sauveur. Parmi les paradoxes de ceux qui refusent l'arrivée déjà accomplie du Christ, guerrier et sauveur, un premier paradoxe, c'est leur ignorance de la parole de Dieu. Les Camerounais s'exclament souvent comment? Que papa. D'autres disent souvent que massa. La connaissance matérielle des textes, quelqu'un n'a pas. Il n'a même jamais lu la Bible, même seulement une fois, on voit. Il discute. Connaissance spirituelle des textes, il n'a pas. Il n'a jamais entendu l'Esprit Saint lui réexpliquer un texte biblique. Connaissance révélée, il n'est même pas sur la route. Au lieu de prendre tout ce qui est disponible dans www.redesnac.org, onglet enseignement, pour se nourrir lui-même, se remplir d'onction, de connaissances matérielles des textes, connaissances spirituelles des textes, connaissances révélées, il proteste. Quelle bêtise! Là, ça s'appelle de la bêtise. C'est plus que la stupidité, c'est de la bêtise. Quel est ce peuple qui ne respecte aucune expertise? Donc, chez vous, il n'y a pas. Vous tous, vous êtes des peintres. Vous tous, vous êtes des agriculteurs. Vous tous, vous êtes des chirurgiens. Vous tous, vous êtes des enseignants. Vous tous, vous êtes des ingénieurs. Mais quelqu'un est assis dans sa chose, tu discutes avec lui. Donc, même Dieu, vous voulez dire que vous-même, vous pouvez être Dieu. Vous étiez là quand on vous fabriquait. Vous savez quelles sont les conditionnalités qui ont permis de vous faire naître dans la famille où vous êtes. Vous savez quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes né de sexe masculin, les raisons pour lesquelles vous êtes né de sexe féminin, les raisons sur lesquelles vous êtes né dans ce pays, au Cameroun. Vous savez pourquoi vous êtes né au milieu des Blancs. Vous savez, qu'est-ce que vous savez? Vous étiez là. Loucotin, hein? Loucotte. Que chacun se mette à sa place. Deuxième paradoxe de ceux qui refusent l'arrivée déjà accomplie du Christ guerrier et sauveur. Mais j'ai dit ça non. Le premier paradoxe, c'est leur ignorance de la parole de Dieu. Ils ignorent là, ils n'ont pas la connaissance matérielle des textes, même là où c'est gratuit, ils ne prennent pas. Connaissance spirituelle des textes, c'est aussi gratuit. C'est disponible dans www.redesnac.org. Onglet enseignement, il y a des enseignements gratuits là-bas avec connaissance spirituelle des textes. Connaissance révélée gratuite. Tout est gratuit. Prenez seulement gratuitement. L'une des choses qui est impressionnante chez l'être humain, c'est qu'il paye pour mourir. Je vais donner un enseignement là-bas après. Là, on lui offre la vie éternelle gratuitement, il ne prend pas. Connaissance révélée gratuite, il ne veut pas prendre. Donc, leur premier paradoxe, c'est leur ignorance de la parole de Dieu. Le deuxième paradoxe, c'est le refus de mettre en pratique la parole de Dieu. Un refus catégorique de mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais vous lire ça. Je lis d'abord le passage. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 19 à 21. Et les enfants, vous avez les choses comme ça dans vos Bibles et vous bavardez? Vous bavardez? Certains même sont déjà spécialisés dans la masturbation mentale pendant qu'ils attrapent les malédictions. Puisqu'ils se masturbent publiquement en jouant aux sages, c'est comme ça que les malédictions s'accumulent sur eux. Après, ils ne vont pas comprendre pourquoi toute leur vie est bloquée. Mais tu as ramassé les malédictions? Pendant que tu pensais que tu es grand, les démons qui habitent ta vie ont dit merci parce que dès que tu attrapes la malédiction, je retire ma sécurité sur toi. Je te laisse avec tes démons. J'enlève. Est-ce que je suis là? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Hein, les enfants, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Tu vas habiter les ténèbres et te laisse là-bas. Dieu ne supplie personne et Dieu ne force la main à personne. Allez lire la parole de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Tout le monde doit passer ses examens. Tout le monde respecte les règles. C'est comme ça. C'est vrai au ciel, c'est vrai sur la terre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 à 21. Vraiment. Vous savez ce qui est écrit dedans? Je vous lis ça. Hein. N'éteignez pas l'esprit. Les croyants qui éteignent l'esprit. Hein. Là, il y a la lumière, il vient couvrir sa vie avec la boue. Ils disent que moi, je ne veux pas la lumière. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut dire au voisin que voisin, voisin, il faut lire la parole de Dieu. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On doit vous parler comment? Dans ta Bible, il n'y a pas ça. Ou bien la page là, tu as déchiré. La cinquième et dernière partie de cet enseignement a un caractère tout aussi pratique. Demandez le discernement des esprits et le don de prophétie. C'est une instruction, une recommandation forte que je vous fais. Demandez le discernement des esprits et le don de prophétie. Dans www.redesnac.org, je vous recommande fortement d'aller prendre les enseignements sur les thèmes dons ministériels et dons spirituels. Il y a des enseignements là-dessus. Vous avez plus de 120 enseignements gratuits chargés d'onction. C'est si quelqu'un ne me rencontre pas, il suit seulement les enseignements. Sa vie change seule. Et les témoignages pleuvent. Gratuits. Onction gratuite, délivrance gratuite, guérison gratuite, restauration gratuite, élévation gratuite, miracle gratuit. Sanctification gratuite, purification gratuite. www.redesnac.org, onglet enseignement. Tu vois là-bas, tu vois c'est écrit audio, tu vois l'autre c'est écrit vidéo. Prends, sers-toi seulement. C'est toi qui sais le dosage de la connexion que tu vas prendre. Tu es là-bas, personne ne te surveille. Nourris-toi. Les autres passent leurs examens. Toi, tu restes murmuré dans leur dos. Pourquoi elle est colonelle? Qu'est-ce qu'une femme fait colonelle? Qu'est-ce qu'elle fait assise là-bas à l'hôtel? Pourquoi on dit que l'autre est reine? Pourquoi on dit qu'il y a 12 reines? Pourquoi elle est une reine? L'autre, on l'appelle commandant en chef de la marine. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on fait à la marine au, qu'est-ce qu'on fait à la marine au ciel? Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils ont même déjà. Ils sont là, ils sont là. Il dit qu'ils ont, il a déjà 6 généraux. Est-ce qu'il y a l'armée chez Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a l'armée? Ils appellent l'autre général. Général de quoi? Je l'ai salué tout à l'heure, non? Ils disent qu'ils ont les ailes. Où sont ces ailes-là? Lorsque vous allez faire ce que je vous recommande, par exemple, au niveau des dons individuels et la diversité des dons, je vous donne 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. J'ai quelque chose à dire à ce niveau. Quand on parle des dons individuels, qui sont les dons spirituels ou encore les dons ministériels, Beaucoup de gens, particulièrement pour ceux qui reçoivent le don de prophétie, souffrent d'ignorance catastrophique. Le niveau d'ignorance des gens qui ont le don de prophétie dans le ministère de Jésus-Christ sur terre, leur niveau d'ignorance est un drame pour toute la planète. Au lieu que ce soit productif, c'est contre-productif. Vous allez dire ceci au voisin. Laissez-moi d'abord dire ça deux fois pour que vous soyez sûr que le voisin va comprendre. Lorsque tu as le don de prophétie, tu ne vois pas. On te montre. Lorsque tu as le don de prophétie, ce n'est pas que tu vois, c'est qu'on te montre. Dis ça au voisin. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il y a autre chose. Il y a autre chose que tu dois dire au voisin. Voisin, quand tu as le don de prophétie, il y a autre chose, je veux dire ça. Il y a autre chose que tu dois dire. Voisin, quand tu as le don de prophétie, tu ne vois que ce que l'on veut que tu vois. J'ai dit que dis ça au voisin. Voisin, quand tu as le don de prophétie, tu ne vois que ce que l'on veut que tu vois. On n'a pas fini. On n'a pas fini aujourd'hui. Moi, y a pas. Tu as autre chose à dire au voisin. Aujourd'hui, là, tu vas seulement parler au voisin. Ta voisine, tout le monde va parler ici aujourd'hui au voisin, à la voisine. Tu as une troisième chose à dire au voisin. Voisin, quand l'Esprit Saint te parle, ça ne veut pas dire que tu es puissant. Voisin, ça veut dire que tu n'es qu'un instrument de communication. Un canal de communication. Maintenant, tu lui dis que, voisin, est-ce que tu as compris? Il y a une autre chose que tu dois dire au voisin. Parce que si tu ne dis pas au voisin, il risque pas de comprendre. Voisin, le don de prophétie, c'est le don spirituel le plus répandu sur la planète. Non, 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 non. Il y a une très grande différence entre, je vous dis d'abord, parce qu'il y a quelque chose à dire aux voisins. Il y a une très grande différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Ça, c'est la chose qui est très importante. Et il y a une très grande différence entre le don de prophétie et l'autorité prophétique. La majeure partie des gens qui ont les dons de prophétie n'ont que le don de prophétie. Et ils ignorent qu'en fait, c'est le don spirituel le plus répandu sur terre. Dieu partage ça comme les cartes. Pour communiquer seulement. Bien. Je vous donne d'autres références qui vont vous aider pour ce qui est du don du discernement, mais c'est mieux d'aller suivre l'enseignement sur les dons spirituels. Je vous donne 1 Corinthiens 14, versets 29 à 30. 1 Corinthiens 14, versets 29 à 30. Je vous donne 1 Jean 4, le verset 1. Vous devez avoir le discernement. Tu as quelque chose à dire au voisin, parce que le voisin doit comprendre ça. Voisin, si tu n'as pas le discernement et le discernement des esprits, ton don de prophétie est en danger. Attendez, 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 le voisin n'a pas compris. Voisin, si tu n'as pas le discernement et le discernement des esprits, les démons vont jouer au ballon avec toi. Parce que tu ne sauras pas faire la différence entre quand c'est l'Esprit Saint qui te parle ou quand c'est le camp ennemi qui te parle. C'est ça. Tant que tu n'as pas le discernement et le discernement des esprits, tu ne sais pas quand c'est l'Esprit Saint qui parle ou bien quand c'est le camp ennemi qui te parle. La parole de Dieu demande, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, il demande de demander le don de prophétie. Ce n'est pas moi qui dis ça. La parole de Dieu est claire. Demandez le don de prophétie. Je vous donne encore comme référence, pour finir, 1 Corinthiens 12, le verset 10. 1 Corinthiens 12, le verset 10. Éphésiens 4, le verset 11. Acte 2, le verset 17 à 18. En Corinthiens 12, verset 10. Éphésiens 4, le verset 11. Acte 2, le verset 17 à 18. Je vais vous revenir tout à l'heure pour vous parler. Pour prophétiser dans la vie de certains enfants que j'ai décidé de délivrer. Beaucoup ne m'ont jamais rencontré. Beaucoup ignorent que je les connais. Mais comment tu peux être sur terre, tu crois que Dieu ne te connaît pas? Donc c'est quand tu m'as rencontré que je dois parler de toi. Je n'attends pas qu'on se rencontre. Je te parle de ton cas parce que j'ai vu ton cas et j'ai décidé d'intervenir. Donc je vais revenir tout à l'heure pour parler particulièrement. N'est-ce pas, de ceux, comme nous le faisons de tradition depuis quelques semaines, ceux qui ont été délivrés de certains maux, de certains problèmes, de certains esprits, et ceux qui ont été libérés de certaines douleurs, de certains poids maléfiques. Recevez ma paix. Recevez ma force. Recevez ma sécurité. Recevez mon autorité. Autorité. Recevez ma lumière. Recevez mon feu. Recevez ma puissance. Recevez ma sécurité. Recevez votre héritage. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis.